Luigi Pirandello, Liman de Sicile. Teresina est-elle là? Le domestique, encore en manche de chemise, mais le cou déjà pris dans un faux col monumental, ses rares cheveux bien lisses et bien ramenés sur le crâne, arquant ses épais sourcils qui se rejoignaient et ressemblaient à de moustaches enlevées de leur place naturelle et qu'on eût collé là pour ne pas le perdre, toisa des pieds à la tête le jeune homme qui se tenait devant lui sur le palier. Un campagnard d'apparence, le collet de son manteau rustique relevé jusqu'aux oreilles, et tenant de ses mains violacées, gonflées par le froid, un mauvais petit sac de gauche et une vieille petite valise de droite à contrepoids. « Qui est Teresina ?» Le jeune homme secoua d'abord la tête pour faire tomber une petite goutte du bout de son nez, puis répondit « Teresina, la chanteuse !»« Ah !» s'écria le valet de chambre avec un sourire d'ironique stupéfaction. « Elle s'appelle ainsi, sans plus, Teresina. Ah bon, et vous, qui êtes-vous »« Y est-elle ou n'y est-elle pas ?» demanda le jeune homme en fronçant les sourcils et en reniflant d'autres petites gouttes qui voulaient tomber. « Dites-lui que c'est Vicuccio, laissez-moi entrer. »« Mais il n'y a personne, » répondit le domestique, avec le même sourire railleur figé sur les lèvres. « Madame Zina Martis est encore au théâtre et... » « Et la tante Martha aussi ?» interrompit Micuccio. « Ah, alors vous êtes un parent. Oh, donnez-vous la peine d'entrer. Alors donnez-vous la peine d'entrer. Mais vraiment, il n'y a personne. La tante, elle aussi, est au théâtre. Oh, nous ne reviendrons pas avant minuit. C'est la soirée d'honneur de votre... Que bien vous êtes, Madame Marnis, cousine, dirons-nous ?» Micuccio resta embarrassé un moment. « Non, je ne suis pas son parent, je suis Micuccio Bonavino. Elle me connaît bien, je viens tout exprès du pays pour la voir. » À cette déclaration, les façons du valet de chambre subirent de nouveau un notable changement. Et jugeant qu'il n'était pas nécessaire de montrer beaucoup d'égard pour cet intrus qui n'était pas un parent, il introduisit Micuccio dans une petite pièce obscure où quelqu'un ronflait bruyamment et lui dit « Asseyez-vous, je vais apporter de la lumière. » Micuccio regarda d'abord du côté d'où venait le ronflement, mais ne put rien distinguer. Puis il regarda du côté de la cuisine qui était tout près et où un cuisinier fort affairé, aidé d'un marmiton, préparait le souper. L'odeur succulente de tous ces mets qui cuisaient stimula par trop son estomac. Il en eut comme une sorte d'ivresse et de vertige. Il était pour ainsi dire à jeun depuis le matin. Il venait de Reggio, en Calabre, une nuit et un jour entier en chemin de fer. Le domestique revint, apportant de la lumière, et la personne qui ronflait derrière, un rideau suspendu à une cordelette qui allait d'une paroi à l'autre, marmotta, tout endormi encore. « Qui est-ce ? » « Allô, Dorina ! Allô, réveille-toi !» cria le valet de chambre. « Viens voir, nous avons ici M. Bonvicino. »« Bonavino !» corrigea Micuccio, qui soufflait sur ses doigts, cherchant à les réchauffer. « Bonavino, Bonavino, une connaisseur de madame. Mais tu dors ferme, sais-tu? On sonne à la porte et tu n'entends rien. Moi, je vais mettre la table, je ne peux pas tout faire, tu comprends? M'occuper de couverts, de cuisiniers qui ne connaissent rien dans la maison, des gens qui viennent. » Un long et sonore bâillement que Dame Dorina sembla prolonger encore en étirant ses membres et qu'un frisson subit termina par un éternuement, fut la seule réponse qu'elle opposa aux récriminations du domestique, lequel s'éloigna en s'écriant « Oui, oui, c'est comme ça !» Micuccio sourit et le suivit des yeux à travers la pénombre d'une autre chambre jusqu'à une grande salle que l'on voyait au fond, tout illuminé et où la table était splendidement dressée. Il resta émerveillé, regardant et regardant encore, jusqu'à ce qu'un nouveau ronflement le fit se tourner vers le rideau. Le domestique, une serviette sous le bras, passait, repassait, maugréant tantôt contre Dorina qui continuait à dormir, tantôt contre le cuisinier qui ne devait pas faire partie du personnel de la maison, et, appelé pour l'événement du jour, l'obsédait en lui demandant sans cesse des explications. Micuccio, pour ne pas le fatiguer lui aussi, jugea prudent de rengainer toutes les questions auxquelles il aurait bien aimé avoir réponse. Il aurait dû lui dire pourtant, ou lui faire comprendre, qu'il était le fiancé de Teresina. Et cela, non, il ne le voulait pas, sans bien savoir lui-même pourquoi. Sinon, parce qu'alors peut-être ce domestique aurait voulu le traiter en maître, lui, Micuccio, et que, le voyant si plein d'aisance, si élégant, quoiqu'il n'eût pas encore mis son habit, il ne pouvait vaincre l'embarras qu'il éprouvait, rien qu'à l'idée de dévoiler la situation. À un certain moment, toutefois, le voyant repasser, il ne put se retenir de lui demander « Pardon, cette maison, à qui est-elle ?»« Ben, à nous, puisque nous y sommes, » lui répondit le valet de chambre, toujours courant. Et Micuccio se mit à hocher la tête. Perbacco, c'était donc vrai. On avait mis la main sur la fortune. Ses affaires devaient bien marcher. Ce domestique qui avait l'air d'un grand seigneur, ce cuisinier, ce marmiton, cette Dorina qui ronflait là, tous des serviteurs aux ordres de Teresina. Qui l'aurait jamais dit ? Il revoyait par la pensée la misérable mansarde là-bas, là-bas, à Messine, où Teresina avait logé avec sa mère. 5 ans auparavant, dans cette mansarde misérable, sans lui, la mère et la fille seraient mortes de faim. Et c'était lui qui avait découvert ce trésor dans le gosier de Teresina. Elle chantait sans cesse alors, comme un oiseau des bois, ignorante de son trésor. Elle chantait en dépit de sa misère, elle chantait pour ne pas y penser. Misère à laquelle lui, Micuccio, cherchait à subvenir de son mieux, malgré la guerre que lui faisaient ses parents à ce sujet, sa mère surtout. Mais pouvait-il abandonner Teresina en cet état, après la mort du père de la pauvre enfant ? L'abandonner parce qu'elle n'avait rien ? Tandis que lui, vaille que vaille, avait une petite place de joueur de flûte dans l'orchestre communal. Belle raison et le cœur. Ah, vraiment, ce beau jour d'avril, près de cette lucarne qui encadrait le bleu immense, l'azur profond du ciel, alors que, soudain, il avait pensé à ce que valait cette voix à laquelle personne ne faisait attention, ça avait été une inspiration d'en haut, une insinuation de la chance. Teresina fredonnait une ariette sicilienne très passionnée, dont les amoureuses paroles revenaient encore au souvenir de Micuccio. Elle était triste ce jour-là, Teresina, à cause de la mort récente de son père et de l'opposition obstinée de ses parents à lui, à leur union. Et lui aussi, oh, il se rappelait bien, il était triste, tellement que les larmes avaient jailli de ses yeux en entendant chanter Teresina. Pourtant, que de fois l'avait-il entendu cette ariette ? Mais chanter de cette façon, jamais. Il en était resté tellement impressionné que le lendemain, sans prévenir ni elle ni sa mère, il avait amené son ami, le chef de l'orchestre communal, dans leur pauvre petite chambre au perché. Et c'est ainsi qu'avaient commencé les premières leçons de chant. Et pendant 2 années de suite, il avait dépensé pour elle tous ses petits appointements. Il lui avait loué un piano, acheté les morceaux de musique nécessaires, et avait aussi trouvé moyen de donner au professeur quelques gratifications amicales. Beau jour lointain! Teresina brûlait du désir de prendre son essor, de se lancer dans l'avenir que son maître lui promettait brillant. et en attendant, pour lui prouver toute sa reconnaissance, quelle caresse de feu à lui, Bikuchio, et quel rêve de bonheur ne faisaient-ils pas ensemble? Tanta Marta, au contraire, secouait amèrement la tête. Elle en avait tant vu de tristes choses dans sa vie, la pauvre femme, que désormais n'avait plus foi en l'avenir. Mais elle craignait pour sa fille et n'aurait pas voulu qu'elle eût seulement l'idée d'échapper à la misère qui lui semblait être leur lot. Et puis elle savait bien ce que coûtait à lui, Minuccio, la folie de ce songe périlleux. Mais ni lui ni Thérésina n'écoutaient la vieille mère, et elle s'était en vain gendarmée. Quand un jeune compositeur, ayant entendu Thérésina dans un concert, avait déclaré que ce serait un véritable crime de ne pas lui donner les meilleurs professeurs et une complète éducation artistique, il fallait l'envoyer à Naples, au conservatoire de Naples, coûte que coûte. Et alors lui, Micuccio, bravant tout à fait ses parents, avait vendu un petit fonds de terre qu'il tenait en héritage de son oncle le prêtre, et c'est ainsi que Thérésina s'en était allée à Naples pour compléter ses études. Il ne l'avait plus revue depuis lors, mais elle lui écrivait du conservatoire, puis étaient venues les lettres de tante Martha, quand Thérésina avait été lancée dans la vie artistique, demandée, disputée par les principaux théâtres, après ses débuts retentissants à San Carlo. Au bas de ces lettres, rares et griffonnées d'une main tremblante et inhabile par la pauvre vieille mère, Thérésina, qui n'avait jamais le temps d'écrire, apposait, et du moins toujours, deux courtes lignes. « Cher Bicuccio, je te confirme tout ce que te dit maman, porte-toi bien et aime-moi. » Ils étaient demeurés d'accord qu'il lui laisserait 5-6 années pour faire librement son chemin. Ils étaient jeunes tous les deux et pouvaient attendre. Et pendant ces 5 années maintenant écoulées, il avait toujours montré les lettres reçues à qui avait voulu les voir pour détruire les calomnies que lançaient ses parents contre Thérésina et sa mère. Dernièrement, il avait été malade, presque à la mort, et tante Martha et Thérésina avaient alors envoyé une bonne somme d'argent pour lui. Il ne l'avait su qu'une fois guéri. Partie de cet argent avait été dépensée pendant sa maladie, mais le reste, il l'avait arraché de vive force aux mains rapaces de ses parents, et voilà, maintenant, il venait pour le rendre à Thérésina, parce que de l'argent, jamais il n'en voulait pas. Non que cela lui fît l'effet d'une aumône, puisqu'il en avait tellement dépensé pour elle, mais il ne voulait rien recevoir de Thérésina, rien. Il n'aurait pas bien su lui dire même pourquoi. Et à présent, encore bien moins ici, dans cette maison. De l'argent, jamais. Il avait attendu tant d'années, il pouvait encore attendre. Toutefois, si Thérésina en avait beaucoup d'argent, c'était signe que la carrière lui était bien ouverte. Et le temps était venu alors de tenir l'ancien engagement, en dépit de ceux qui disaient qu'il n'en serait rien. À ce point de ses réflexions, Micuccio se leva soudain, les sourcils froncés, comme pour s'affermir lui-même dans cette conclusion, et soufflant de nouveau sur ses mains glacées, il frappa des pieds par terre. « Vous avez froid ?» lui dit le domestique en passant. « Oh, ces dames ne tarderont pas à rentrer maintenant. Venez dans la cuisine, vous serez mieux. » Micuccio ne voulut pas faire ce que lui conseillait le domestique, qui, avec ses airs de grand seigneur, l'agaçait et l'intimidait. Il se rassit et se remit à penser, très abattu. Quelques instants après, un fort coup de sonnette le fit tressaillir. « Dorina, madame !» cria le valet de chambre en filant son habit en hâte et en rage, tandis qu'il courait ouvrir. Mais voyant que Micuccio faisait mine de le suivre, il l'arrêta net, puis lui intimait « Non, non, vous restez ici !» « Attendez que j'ai averti madame. »« Aïe, aïe, aïe !» J'ai mis une voix ensommeillée derrière le rideau. Et peu après apparut une grande et grosse femme fagotée dans un châle de laine qui lui montait par-dessus le nez. Elle traînait une jambe et ne réussissait pas à soulever ses paupières. Ses cheveux étaient couverts de poudre d'or. Mikuccio resta bouche bée à la regarder. Et elle aussi, étonnée, écarquilla les yeux, dévisageant cet étranger. « Voilà, madame !» répéta Mikuccio. Alors Dorina, recouvrant subitement ses esprits, « J'y vais, j'y vais !» dit-elle, ôtant et jetant son châle derrière le rideau. Et mettant toute sa pesante personne en branle pour courir vers l'entrée. L'apparition de cette sorcière fardée, l'intimidation du domestique, donnèrent aussitôt à Mikuccio, déjà découragé, un douloureux pressentiment. Il entendit la voix de Zia Marta qui criait « Là-bas, dans la salle à manger, dans la salle à manger, Dorina !» Et le domestique et Dorina passèrent devant lui, portant de magnifiques corbeilles de fleurs. Il avança la tête pour regarder au fond du couloir la salle illuminée, et il vit quantité de beaux messieurs en habits qui parlaient tous ensemble. Sa vue se troubla, et si grande était sa stupeur, si grande son émotion, qu'il ne se rendit pas compte que ses yeux s'étaient remplis de larmes. Il les ferma, et dans le noir, il se tapit en lui-même comme pour résister au déchirement que lui causait un long et bruyant éclat de rire. C'était Thérésina qui riait ainsi là, dans cette salle. Une exclamation lui fit rouvrir les yeux. Il vit Zia Marta devant lui, méconnaissable, un chapeau sur la tête, pauvre femme, et embarrassée dans les plis d'un splendide manteau de velours. « Comment, Mikuccio, toi ici ?»« Zia Marta !» s'écria Mikuccio, presque effrayé, restant à la contempler. « Mais comment ?» continua la petite vieille bouleversée. « Mais sans avertir, mais que se passe-t-il ? Quand es-tu arrivée ? Justement ce soir, oh Dieu, Dieu !»« Bien, je suis venu pour... » balbutia Mikuccio, ne sachant plus que dire. « Attends !» interrompit Zia Marta. « Comment faire ? Tu vois tout ce monde, mon fils ? C'est la fête de Thérésina, sa soirée. Ah, attends, attends un peu ici. Mais si vous... » essaya de dire Mikuccio, à qui l'angoisse serrait la gorge. « Si vous croyez que je dois m'en aller... »« Non, 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 attends un peu, te dis-je. » se hâta de lui répondre la bonne petite vieille, très en peine. « Pourtant, » reprit Mikuccio, « je ne saurais où aller dans cette ville et à cette heure. » Zia Marta le laissa, lui faisant signe d'attendre de sa main gantée, et se rendit dans la salle à manger où, quelques secondes après, il sembla à Mikuccio que s'ouvrait un gouffre. Il s'était fait silence soudain. Puis il entendit clair, distinct, ces mots prononcés par Thérésina. « Un moment, messieurs !» Sa vue se troubla de nouveau devant l'imminence de sa venue. Mais Thérésina ne vint pas et la conversation reprit dans la salle. Ce fut Zia Marta qui revint au bout de quelques minutes, qui parurent éternelles au pauvre garçon. Elle était sans chapeau, sans gants et paraissait moins embarrassée. « Nous attendrons ici un peu, si tu veux bien, lui dit-elle. Je resterai avec toi. » Dorina nous mettra le couvert sur cette petite table et nous souperons ensemble ici. Nous nous rappellerons le bon vieux temps, n'est-ce pas ? Cela me paraît pas croyable de me trouver ici avec toi, mon garçon, ici à l'écart. Dans la salle, tu comprends, il y a tant de messieurs. Et elle, la pauvrette, ne peut pas faire autrement. La carrière, tu comprends. Et comment faire ? Tu as lu dans les journaux ? De grandes choses, mon fils. Moi, toujours ballotté comme sur mer, oh, il me semble rêver d'être ici avec toi ce soir. Et la bonne Zia Marta, qui avait parlé instinctivement pour ne pas laisser à Mikuccio le temps de penser, s'est mit à sourire à la fin et à se frotter les mains en le regardant tout attendri. Dorina va mettre le couvert à la hâte parce que là-bas, dans la salle à manger, on avait déjà commencé à souper. Viendra-t-elle? Demanda Micuccio, les visages sombres, la voix étouffée. Je dis, enfin, pour que je la voie, au moins. Oh, certainement qu'elle viendra, répondit aussitôt la vieille femme, s'efforçant de vaincre la gêne. Dès qu'elle aura une minute de liberté, elle me l'a dit elle-même. Ils se regardèrent et se sourirent, comme si finalement ils se reconnaissaient tous les deux. À travers la gêne et l'émotion, leur cœur avait trouvé le moyen de se saluer par ce sourire. « Mais vous êtes bien, Zia Martha, » disaient les yeux de Micuccio. « Eh, toi, tu es bien, Micuccio, mon cher et bon garçon, toujours le même, pauvre enfant, » disait ceux de tante Martha. Mais tout aussitôt, la bonne femme baissa les siens pour que Micuccio n'y lût pas autre chose. Elle se frotta de nouveau les mains et dit, « Eh, si nous mangions, hein ?»« Oh, j'ai une faim, moi !» s'écria Micuccio, tout content et rassuré. Mais signe de croix d'abord. Oh, je peux le faire ici devant toi, ajouta la petite vieille d'un air malin en clignant de l'œil. Et elle se signa. Le domestique va leur offrir le premier service. Micuccio se mit à regarder très attentivement comment faisait Zia Martha pour prendre une portion dans le plat. Mais quand vint son tour de se servir, en levant les mains, il pensa et vit qu'elles avaient été salies par le long voyage et rougies tout confus. Du coin de l'œil, il regarda le domestique, mais celui-ci, devenu très aimable, lui fit un léger signe de tête accompagné d'un sourire, comme pour l'inviter à se servir. Heureusement que Zia Martha le sortit d'embarras. « Attends, attends, Micuccio, je vais te servir, moi !» Il l'aurait embrassé dans sa gratitude. À peine le domestique se fut-il éloigné, qu'il se hâta de se signer lui aussi. « Mon brave enfant !» lui dit Zia Martha. Et il se sentit heureux, à l'aise. Il se mit à manger comme il n'avait jamais mangé de sa vie, sans plus songer à ses mains noires ni à l'imposant domestique. Cependant, chaque fois que celui-ci, entrant dans la salle à manger ou en sortant, en ouvrait la porte vitrée, et que de là venait comme une houle de paroles confuses ou quelques fusées de rire, Micuccio se tournait inquiet et agité de ce côté, puis fixait ses regards sur les yeux affectueux et tristes de Zia Martha, comme pour y lire une explication. Mais il y lisait au contraire la prière de ne rien demander pour le moment, de remettre l'explication à plus tard. Et tous les deux se souriaient de nouveau et se remettaient à manger, à parler du pays lointain, d'amis et de connaissances dont la bonne femme demandait des nouvelles au jeune homme, lui posant des questions sans fin. « Tu ne bois pas ?» Micuccio étendit la main pour prendre la bouteille. Mais à ce moment, la porte vitrée de la salle à manger se rouvrit. Un froufrou de soie, des pas précipités, puis un éblouissement, comme si la petite chambre eût été tout à coup vivement éclairée et que tant de lumière l'eût aveuglée. « Thérésina !» Et la voix mourut sur ses lèvres de stupeur. « Oh, quelle reine !» Il resta à la contempler, des flammes au visage, les yeux dilatés, la bouche ouverte, hébétée. « Comment elle, ainsi ?» Le sein nu, les épaules nues, les bras nus, toute chatoyante de bijoux et d'étoffes soyeuses. Il ne la voyait pas, il ne la voyait plus comme une personne vivante et réelle devant lui. Que lui disait-elle? Dans cette apparition de rêve, il ne retrouva rien d'elle, rien, ni la voix, ni les yeux, ni le rire. « Comment vas-tu? Mais tu es bien à présent, Micuccio. Bravo, bravo !» « Tu as été malade, si je ne me trompe. Oh, nous nous reverrons tantôt. En attendant, tu as maman qui reste avec toi. C'est entendu, n'est-ce pas ?» Un grand froufrou de soie de nouveau, et Thérésa était partie retourner dans la salle à manger. « Tu ne manges plus ?» demanda timidement un instant après Zia Martha pour rompre le mutisme de Micuccio, qui paraissait tout interdit. Celui-ci la regarda comme égaré. « Mange !» insista la vieille mère en lui montrant le plat. Miguccio porta deux doigts à son col de chemise froissé et noir de fumée et l'étira. Puis il exhala une longue respiration. « Manger ?» Et il agita plusieurs fois les doigts près du menton comme pour remercier et dire « Non, je ne peux plus, je n'ai plus envie. » Il resta encore un moment silencieux, accablé, absorbé dans la vision rapide qui venait de s'évanouir. Puis il murmura « Comme elle est devenue !» Il vit que Zia Marta secouait mélancoliquement la tête et qu'elle avait cessé de manger elle aussi, semblant attendre. « Ben, il faut plus y penser, » ajouta-t-il ensuite, fermant les yeux et comme se parlant à lui-même. Il voyait maintenant quelle était son obscurité et quel abîme s'était ouvert entre eux. Non, ce n'était plus elle, celle d'autrefois, sa Teresina. Tout était fini. Et depuis longtemps déjà, depuis longtemps. Et lui, stupide, lui, imbécile, s'en percevait seulement à présent. On le lui avait bien dit au pays, et il s'était obstiné à ne pas le croire. Et maintenant, quelle figure faisait-il à rester là davantage dans cette maison? Si tous ces beaux messieurs, si ce valet de chambre avait su que lui, Micuccio Bonavino, s'était rompu les os à venir de si loin, 36 heures de chemin de fer, se croyant encore sérieusement le fiancé de cette reine, quels éclats de rire ils auraient poussé, ces messieurs et ces domestiques, et le cuisinier, et le marmiton et Dorina. Quelle risée si Teresina l'avait traîné là, dans cette salle, en leur présence, disant « Écoutez donc, ce pauvre jeune homme, ce petit joueur de flûte, dit qu'il veut devenir mon mari. » Elle lui avait promis, à vrai dire. Mais comment aurait-elle pu supposer elle-même qu'elle deviendrait une si grande dame? Il était vrai encore, oui, que c'était lui qui lui avait ouvert cette voie et lui avait permis de s'y acheminer. Mais voilà, elle était maintenant parvenue si loin, si loin, que lui qui était resté là, toujours le même, à jouer de la flûte les dimanches sur la place du village, comment aurait-il pu la rejoindre? Non, il n'y fallait plus penser. Et qu'était-ce encore que ces quelques pauvres sous dépensés pour elle jadis et maintenant qu'elle était devenue si riche? Il avait honte, rien qu'à l'idée qu'on pût soupçonner qu'il voulût s'arroger quelques droits à cause de ces pauvres misérables sous, et prétendit l'affirmer par sa venue. À ce moment, il se souvint d'avoir sur lui le reste de l'argent que Teresina lui avait envoyé pendant sa maladie. Il rougit, tout confus, et mit vivement une main dans la poche de son gilet où était son portefeuille. « J'étais venu, Zia Marta, dit-il précipitamment. J'étais venu aussi pour vous rendre cet argent que vous m'avez envoyé. Pensiez-vous faire un paiement, une restitution? C'était bien la peine. Je vois que Teresina est devenue une... Oh, elle me paraît être une reine. Je vois que... Alors, rien, il n'y faut plus penser. » Mais cet argent, non, je ne m'attendais pas à cela de sa part. Qu'importe, c'est fini. N'en parlons plus. Mais de l'argent, point. Je regrette seulement qu'il n'y soit pas tout. Que dis-tu, mon fils? Prononça d'une voix tremblante et les yeux pleins de larmes, Zia Marta, tout affligée, qui voulut l'interrompre. Micuccio lui fit signe de se taire. Ce n'est pas moi qui l'ai dépensé, ce sont mes parents, pendant ma maladie, sans que je l'ai su. Enfin, mettons que cela compte pour cette misère que j'ai dépensée, alors que, vous vous rappelez, oh, peu importe, n'y pensons plus. Mais voici le reste, et puis je m'en vais. Comment ainsi, mais tout d'un coup, s'écria Zina Marta, cherchant à le retenir. Attends au moins que je te le dise à Teresina. N'as-tu pas entendu qu'elle a dit qu'elle voulait te revoir? Oh, je vais lui dire. Non, C'est inutile, lui répondit Micuccio d'un ton décidé. Laissez-la avec ces messieurs. Elle est bien à sa place, là. Moi, pauvre de moi, je l'ai vue, cela m'a suffi. Allez-vous-en plutôt. Allez-vous-en, vous aussi, dans cette salle, Zia Martha. Entendez-vous comme l'on rit? Je ne veux pas que l'on rit de moi. Je m'en vais. Zia Martha interpréta dans le plus mauvais sens cette subite résolution de Micuccio. Elle y vit un acte de colère, un mouvement de jalousie. Il lui semblait désormais, la pauvre femme, que tous, en voyant sa fille, devaient aussitôt concevoir le plus fâcheux soupçon et deviner le douloureux secret qui lui faisait verser tant de larmes, qui pesait sur elle sans trêve au milieu du tourbillon de cette vie de luxe odieux et qui déshonorait ignominieusement sa vieillesse. « Moi, vois-tu, laissa-t-elle échapper, je ne peux plus faire la garde auprès d'elle, mon fils. Pourquoi ?» demanda Micuccio, lisant dans les yeux de la pauvre mère et ayant tout à coup le soupçon qui ne l'avait pas encore effleuré. Son visage s'assombrit. La vieille femme se troubla dans sa tristesse et se couvrit la figure de ses mains tremblantes. Mais elle ne parvint pas à arrêter ses larmes qui jaillirent à flots. « Oui, oui, va-t'en, mon fils, va-t'en, » dit-elle alors, suffoquée par les sanglots. « Elle n'est plus pour toi, tu as raison. Si vous m'aviez écouté... » Donc, ce mot jaillit comme un cri, et Micuccio, se penchant sur la vieille femme, lui enleva de force une main du visage. Mais le regard par lequel elle implora sa pitié, en portant un doigt sur ses lèvres, fut tellement douloureux, tellement plein de détresse, qu'il se contint et ajouta d'un autre accent, s'efforçant de parler doucement. Ah, alors elle n'est plus digne de moi. C'est bien, c'est bien. Je m'en vais tout de même. Au contraire, je m'en vais encore bien plus maintenant. Que je suis donc sot, Zia Martha, je ne l'avais pas compris. Ne pleurez pas, après tout, qui faire? La destinée, la destinée. Il prit sa petite valise et son vieux sac qu'il avait remisé sous la table et se dirigea vers la porte. Mais alors il lui revint à l'esprit que là, dans ce sac, étaient les beaux limons qu'il avait portés du pays pour Thérésina. « Bon, regardez, Zia Martha, » reprit-il. Il ouvrit le sac et faisant un rempart de son bras, il versa sur la table les fruits frais et parfumés. Puis les dents serrées. « Et si je me mettais à lancer tous ces limons que j'ai apportés sur la tête de ces beaux messieurs ?»« De grâce !» gémit la pauvre vieille à travers ses larmes, lui demandant de nouveau de se taire d'un signe suppliant. « Non, rien !» répondit Micuccio en riant d'un rire amer, et en reprenant à la main son sac vide. « Je les laisse pour vous seuls, Zia Martha. Et dire que j'ai encore payé l'octroi. Enfin, à vous seuls, vous entendez bien. Quant à elle, dites-lui cela. Bien du bonheur, de ma part. » Il reprit sa valise de l'autre main et s'en alla. Mais, en descendant l'escalier, il plia sous un sentiment d'affreuse tristesse et d'angoisse. Seul, abandonné dans cette grande ville étrangère, loin de son pays, déçu, découragé, trompé. Il arriva jusqu'à la porte de la rue et vit qu'il pleuvait à torrents. Il n'eut pas le courage de s'aventurer par ces rues inconnues sous cette pluie. Il rentra tout doucement, monta jusqu'au premier palier, puis s'asseyant sur la marche d'en haut, les coudes appuyés sur les genoux, et la tête entre les mains, il se mit à pleurer silencieusement. À la fin du souper, Sina Marnis se montra de nouveau dans la petite chambre. Elle y trouva sa mère seule, la figure cachée dans sa serviette, pleurant, tandis que dans la grande salle, ces messieurs bavardaient et riaient. « Il est parti ?» demanda-t-elle surprise. Zia Martha fit signe que oui de la tête sans la regarder. Sina fixa les yeux dans le vide, absorbé, puis soupira. « Pauvre garçon !»« Regarde, lui dit sa mère, sans plus arrêter ses larmes, il t'avait apporté des limons. »« Oh, qu'ils sont beaux !» s'écria Sina, recouvrant sa gaieté. Elle prit sur la table autant de fruits qu'elle en pouvait porter. « Non, pas là, non !» protesta vivement la vieille femme. Mais Sina haussa ses épaules nues et courut dans la salle illuminée en criant « Liban de Sicile! Liban de Sicile !»